Radio Kapi. Oh, Kapi.
Maladie non encore identifiée qui sévit à Mungwalu en Ituri. L'application des mesures barrières vient de commencer dans plusieurs écoles de Bunia. Des sources sur place craignent une possible apparition au Ebola. L'administration publique congolaise dispose désormais d'un portail numérique reprenant tous les agents actifs. Le ministre de la fonction publique a présenté cette réforme hier à Kinshasa. Au moins 2 501 000 agents ont été recensés en 2025. Comme invité, Fistolien Elitelo, expert international en matière de lutte contre la traite des personnes. Il nous parle d'une étude que l'Organisation internationale pour les migrations a menée en Ituri sur ce phénomène. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Nous commençons à Bunia. Des mesures barrières ont été observées ce vendredi matin dans plusieurs écoles de la ville. Des écoliers ont été soumis au prélèvement de la température et au lavage strict des mains, selon des chefs d'établissements scolaires qui citent les responsables sanitaires provinciaux. C'est à la suite d'une possible apparition de la maladie d'Ebola dans la province de l'Ituri. Avant la déclaration officielle de l'épidémie en province par le gouverneur, la division provinciale de la santé se mobilise pour un plan de riposte contre cette maladie qui aurait déjà causé plusieurs dizaines de morts. Reportage Martial Kizabiamongo.
C'est une situation inhabituelle que nous avons observée ce vendredi matin dans plusieurs écoles de la ville de Bunia. Avant d'entrer dans l'enceinte de leurs écoles, les élèves étaient soumis au prélèvement de la température, au lavage de mains avec des infectants. Selon des responsables de ces écoles visitées, cette situation est consécutive aux instructions données par les responsables sanitaires de la province au cours d'une réunion tenue jeudi à Bunia. C'est à la suite d'une possible apparition de la maladie à virus Ebola dans les zones de santé des Mungwalu, Rompara et Bunia. John Mugisa Bessissa, gestionnaire des écoles Shalom de Bunia.
Nous, ça nous interpelle, nous qui gérons les élèves et le personnel. Alors, nous devons nécessairement renforcer les dispositifs de sécurité sanitaire pour nos enfants.
Le directeur provincial de l'EPST Ituri 1, Yvon Moukiabasele, rassure qu'un plan de sensibilisation sera mis en place pour que des mesures barrières soient respectées dans toutes les écoles de sa juridiction. Selon des sources médicales, l'Institut national de recherche biomédicale aurait confirmé ce vendredi matin 13 cas d'Ebola d'une souche non connue jusque-là à Ituri parmi les échantillons reçus des Bunia. Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
À Beni, le programme de lutte contre le paludisme appelle la population à plus de vigilance face à cette maladie. La malaria est toujours présente dans le Nord Kivu. Lors d'un point de presse tenu hier jeudi en marge de la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée le 25 avril, les autorités sanitaires ont insisté sur l'importance de l'assainissement de l'environnement pour limiter la prolifération des moustiques. On écoute la coordinatrice provinciale du programme, Demson Musondoli Kaisavira, au micro de Marc Marofimbo.
La transmission du paludisme s'est faite pour la grande majorité, à part quelques cas, par piqûre de moustiques anopheles. Nous savons que la fièvre typhoïde, elle est plutôt parmi les maladies des mains sales. Donc elle provient des eaux polluées. Alors que le paludisme, par contre, lui, c'est par piqûre de moustiques. Ce qui fait que nous, comme programme de lutte contre le paludisme, nous avons une mainmise sur l'assainissement du milieu parce que nous savons que notre moustique anophèle femelle doit pondre les œufs et ces œufs-là sont pondus dans des eaux. C'est pourquoi nous encourageons l'assainissement du milieu, là où nous sommes en train de vivre, pour que ces moustiques-là ne puissent pas se reproduire, ne puissent pas proliférer autour de nos ménages et continuer à nous piquer et à transmettre la maladie.
Selon la division provinciale de la santé, plus d'un million 650 000 malades de paludisme ont été enregistrés l'année dernière, rien que dans la province du Nord Kivu. L'administration publique congolaise se modernise. Elle dispose désormais d'un portail numérique reprenant tous les agents actifs. Le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présenté cette réforme hier jeudi à Kinshasa. C'est au cours du lancement du premier numéro du rapport dénommé « La fonction publique en chiffres ». Selon ces statistiques, au moins 2 501 000 agents ont été recensés en 2025. Parmi eux, 1 867 000 sont rémunérés, soit 74%, et 634 000 ne sont pas encore pris en charge dans la rémunération. Explication avec Blaise Ndani Kambala.
Selon ces rapports, il s'observe une tendance baissière des effectifs rémunérés qui tend 1 805 000 en 2020 pour atteindre 1 727 000 en 2024 avant de remonter à 1 867 000 en 2025, essentiellement dû aux mécanisations supplémentaires des enseignants. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique explique qu'à travers ces statistiques, le gouvernement vise à bâtir une administration publique moderne et basée sur la transparence des chiffres. Jean-Pierre Liaou.
Notre pays a fait le choix de bâtir une administration publique moderne, performante, transparente et redevable. Suivant cette vision, nous avons fait le choix d'une gouvernance basée sur la transparence des chiffres.
Ce membre du gouvernement soumis noir rappelle que cette réforme entend par ailleurs sortir l'administration publique des sentiers battus en mettant fin aux difficultés de gestion des ressources humaines de l'État.
Nous sommes sur la bonne voie et que si la tendance se maintient, demain sera indubitablement meilleur, aussi bien en termes de maîtrise des effectifs et de la masse salariale.
Quant au régime général, il y a eu 181 000 mécanisations au traitement des bases entre 2021 et 2025, dont 88 000 sont les résultats des économies dégagées des travaux d'assainissement des effectifs, de la mise à la retraite, ainsi que des mesures d'éligibilité au traitement des bases.
La rétrocession des recettes aux provinces et la gestion des biens aïkanisés au centre d'un exercice de contrôle parlementaire au Sénat. Auditionné hier jeudi devant la Chambre haute, le ministre des Finances, Toudou Famba, a été appelé à s'expliquer sur plusieurs préoccupations liées notamment au retard de paiement des provinces, à l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation, ainsi qu'à la situation des biens hérités de la aïkanisation. C'est à la suite une question orale avec débat du sénateur Célestin Vunabanzi, élu du Nord Kivu. Face aux critiques des sénateurs, le ministre a évoqué les contraintes budgétaires liées à la guerre. Il a également annoncé plusieurs mesures pour améliorer progressivement la gestion des finances publiques. DDT avec Grâce Amzati, notre permanent au Parlement.
Premier point soulevé par les sénateurs, la rétrocession des recettes nationales dues aux provinces. Le sénateur Célestin Vunabandi dénonce des irrégularités persistantes dans le transfert des moyens financiers aux entités territoriales décentralisées. En réponse, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, explique qu'entre 30 et 37% des ressources publiques sont actuellement consacrées aux dépenses sécuritaires dans le contexte des guerres que traverse le pays. Il a toutefois assuré que le gouvernement poursuit progressivement le paiement des arriérés dus notamment aux députés provinciaux. Autre sujet débattu, l'opérationnalisation de la Caisse nationale des péréquations prévue par l'article 181 de la Constitution pour réduire les inégalités entre provinces. Plusieurs sénateurs ont regretté que cette structure peine encore à fonctionner pleinement plus de 20 ans après sa création. À ce sujet, le ministre des Finances annonce une enveloppe de 20 millions de dollars destinée à accompagner l'opérationnalisation de cette caisse. Les débats ont aussi porté sur les biens aérianisés. Le sénateur Vunabandi dénonce l'abandon de nombreuses plantations, fermes et anciennes usines devenues, selon lui, des sources de conflits fonciers et des litiges avec l'État. En réponse, Doudou Fouamba indique qu'un inventaire général de ces biens est actuellement en cours dans les provinces afin d'identifier des solutions pour leur gestion et leur valorisation.
À Béni, de plus en plus de jeunes filles se lancent dans des petites activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins. Au quartier Matongé, Lydie Kafouro, 17 ans, élève à l'Institut Odari, en est un parfait exemple. Chaque jour, elle prépare du thé au gingembre, très apprécié des travailleurs. Cette activité lui permet de financer ses études. Son courage et sa détermination ne passent pas inaperçus auprès de sa clientèle. Marc Marofimbo l'a rencontré. Reportage.
Lydie Kafouro est devenue une figure familière pour les travailleurs du quartier. Gobelet à main, ses clients se pressent autour d'elle pour savourer son thé aux gingembre devenu incontournable. Mais d'où lui est venue cette idée?
L'idée est venue de la maison. Il y a ma mère qui préparait ça les matins pour mon père. Et puis il y avait les papas qui aimaient ça beaucoup. J'ai dit, je peux commencer même ce travail ici. Je peux chaque fois vendre ça et les gens vont chaque fois aimer ça. Je te dis déjà des après-midi. Je quitte là les 17h. Je viens préparer ici. Et puis les gens viennent, les gens qui passent à 17h et 18h souvent. Ils prennent ça jusqu'à 20h. Oui, je rentre à la maison. Oui, je gagne beaucoup. tout ce que je suis avec, je l'allais vivre.
Son courage et sa détermination inspirent ses clients qui n'hésitent pas à l'encourager.
Le matin, elle est ici pour servir l'été. Le soir, elle est encore là, mais elle combine aussi certainement avec ses études. Ce n'est pas facile. C'est comme ça que nous sommes en train de l'encourager. Et ça fait du bien lorsque vous consommez les fruits que vous avez produits vous-même avec votre propre effort.
À seulement 17 ans, Lydie Kavou ne compte pas s'arrêter là. Son rêve, ouvrir une grande cafétéria pour développer davantage son activité. Entre ambition et persévérance, Lydie incarne déjà l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Aujourd'hui 15 mai, le monde célèbre la journée internationale de la famille. Elle est placée cette année sous le thème « Famille, inégalité et bien-être des enfants ». À Kananga, dans la province du Kasaï central, de nombreuses femmes assurent la survie de leur ménage grâce à de petits commerces, vente de légumes, de braises ou encore d'huile de palme et autres. Cela dans un contexte économique difficile où certains hommes sont sans emploi, décédés ou disposent des revenus insuffisants. André Katendengala Mouloumi a rencontré certaines de ces femmes au marché de Dibamba. Voici son reportage.
Au marché du Bamba Bukemaï, situé dans la commune d'Endesha, nous rencontrons Bernadette Ngalula. Veuve depuis 7 ans, cette femme d'une cinquantaine d'années élève seule ses 8 enfants après le décès de son mari. Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle exerce les petits commerces de braise, une activité qui lui permet notamment de nourrir ses enfants et de payer leurs frais scolaires.
J'ai 8 enfants. Je les supporte grâce à ces commerces de braise. Je mets un peu d'argent en retourne et cela me permet de les nourrir et de les scolariser. J'ai déjà des garçons qui ont déjà décroché les diplômes.
À quelques mètres de là, Julie Mbombo vend des aubergines et des tomates. Elle explique que son mari est sans emploi. Depuis plusieurs années, elle assume seule une grande partie des charges du ménage ainsi que la scolarité des enfants.
Mon mari n'a pas de travail. C'est ce commerce qui aide ma famille. Je vends des tomates et des aubergines. Ça me permet d'envoyer mes enfants à l'école. Il y a une fille qui a déjà décroché son diplôme.
À Kananga, de nombreux ménages survivent aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce aux efforts quotidiens des femmes mobilisées chaque matin pour nourrir leur famille et soutenir l'avenir de leurs enfants. Kananga, André Katendengala Mouloumi, Radio Kapi.
Et à Kinshasa, la hausse de prix des produits alimentaires continue de peser sur le quotidien des ménages. Dans plusieurs marchés de la capitale, les habitants constatent une augmentation progressive des denrées de première nécessité, rendant la vie de plus en plus difficile. Au marché Gambela, par exemple, clients et vendeurs font face à cette réalité qui affecte directement leur pouvoir d'achat. Entre baisse du pouvoir d'achat et difficulté d'approvisionnement, chacun tente tant bien que mal de s'adapter. Reportage Joyce Massanka.
Au marché Gambela, l'ambiance reste animée malgré un contexte économique difficile. Entre les cris des vendeuses et les négociations entre le va-et-vient des clients, un constat s'impose. Les prix des produits alimentaires ne cessent d'augmenter. Riz, huile, légumes, poissons ou encore charbon devient de plus en plus inaccessible pour de nombreux ménages. Face à cette réalité, certains clients revoient leurs habitudes, réduisant leurs achats ou privilégient des petites quantités pour s'adapter à leur budget.
L'huile est en train d'augmenter. Imaginez, un bidon d'huile de palme coûte maintenant 25 000 francs congolais. Le coca est maintenant à 2 000 francs congolais. Les prix ne baissent pas.
Du côté des vendeuses, le constat est le même.
Le prix de produits augmente énormément. Nos produits qui coûtaient 5 000 francs sont aujourd'hui vendus à 10 000 francs congolais. Et des articles qu'on achetait auparavant à 300 francs ou 500 francs coûte maintenant 1000 francs congolais. Nous souffrons vraiment de cette hausse de prix. Nous essayons de tenir les coûts, mais nous ne savons plus comment nous allons nous en sortir.
Malgré l'influence constatée au marché Gambela, cette augmentation de prix continue de fragiliser le pouvoir d'achat des familles quinoises.
Au Nord Kivu, nous venons de l'apprendre, au moins 2 personnes ont perdu la vie et 9 autres sont portées disparues. C'est à la suite d'un éboulement survenu mardi au village Robé, en groupement Iana, territoire de Walikale. Selon les sources coutumières locales, de fortes pluies enregistrées la nuit de lundi à mardi ont provoqué l'effondrement d'une partie de la colline Irungi. Les éboulis ont surpris les cultivateurs et des exploitants miniers artisanaux qui campaient dans cette zone forestière. Bernard Denyangui pour d'autres détails.
Au total, 13 personnes originaires des villages Mungazi, Mutero et Kakambi dans le groupement voisin de Lubérique ont été prises au piège alors qu'elles dormaient dans leurs abris de fortune. Seules 2 ont pu être secourues vivantes précisent nos sources. L'opération de recherche menée par des volontaires locaux jusqu'à jeudi a permis de retrouver jusqu'ici deux corps sans vie, ceux d'un homme et d'un enfant. Les 9 autres victimes restent introuvables. Les 2 survivants ont été évacués vers l'hôpital de référence de Kibua, où ils reçoivent des soins appropriés. Par ailleurs, le comité de la jeunesse de Kakambi alerte sur les conséquences environnementales de cet éboulement. L'érosion a complètement obstrué le lit de la rivière Kuko, qui constitue la limite naturelle entre le groupement Iyane et Luberike, provoquant d'autres inondations dans la zone. Cette obstruction a également entraîné la formation d'un vaste étang artificiel, faisant craindre une nouvelle catastrophe. Le comité appelle à un appui logistique urgent pour poursuivre les fouilles, mais aussi pour dégager le lit de la rivière Kuko afin de favoriser l'écoulement des eaux et prévenir d'autres risques.
L'insalubrité prend des proportions inquiétantes à Kinshasa, précisément la réentrée Kimwenza cité Pumbu. Tenez, cet espace est devenu une véritable décharge à ciel ouvert. Depuis plusieurs semaines, des immondices s'accumulent sur place. Cela dégage des odeurs nauséabondes et pollue l'environnement. Commerçants et passants expriment leur ras-le-bol face à cette situation qui qualifie d'insupportable. C'est un reportage signé Daniela Awa.
Des montagnes de sacs plastiques et des restes alimentaires recouvrent le sol. Sur place, le commerce et l'insalubrité coexistent dans un mélange préoccupant. Les mouches envahissent les lieux et l'air est devenu difficile à respirer. Une vendeuse témoigne de la situation.
Les gens du marché viennent jeter leurs déchets ici. Même quand l'air demande d'arrêter, ils ne coûtent pas. Le policier nous demande de payer pour un salon qui ne se fait pas. Ceux qui connaissent les règles d'hygiène n'achètent pas. Nous vendons difficilement.
Une habitante du quartier exprime également son inquiétude face à cette situation.
Nous passons par ici tous les jours, mais c'est devenu difficile. Les embouteillages avec des motos, cette grande route se transforme en décharge.
Interrogé sur ce retard dans l'évacuation des déchets, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu, s'exprime.
Les déchets, nous les allons évacuer le samedi. Mais curieusement, ce sont ces mêmes riverains qui viennent encore jeter les immondices. Nous ne pouvons pas tolérer ça. La police est à côté, nous avons blâmé la police. Il est anormal qu'on trouve des immondices à côté d'un sien. Nous mettons des moyens pour évacuer tous ces déchets. Nous regrettons beaucoup le comportement de tous ces riverains. Nous pensons que si nous attrapons quelqu'un en flagrant délit, il sera sanctionné.
En attendant une solution durable, les habitants de la cité Pumbu et ses environs vivent dans l'inquiétude.
Actualité internationale.
L'armée nigériane a dénoncé hier dans un communiqué un rapport trompeur et des chiffres non vérifiés. C'est à propos des accusations de frappe aérienne qui auraient fait plus d'une centaine de victimes civiles selon Amnesty International. C'était le 10 mai sur un marché bondé de l'état de Zamfara au nord-ouest du Nigeria. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme de son côté réclame une enquête impartiale pour établir les responsabilités.
L'invité.
Traite des êtres humains, trafic illicite de migrants, disparition d'enfants. Dans les zones frontalières entre la RDC et l'Ouganda, ces phénomènes prennent de l'ampleur. Pour mieux comprendre cette réalité, l'Organisation internationale pour la migration a mené entre décembre 2025 et février de cette année une étude dans les territoires d'Aru, Magi et Djougou en Ituri. Quels sont les groupes les plus exposés? Comment opèrent les réseaux de trafiquants? Et surtout, quelles réponses envisager pour protéger les populations vulnérables? Nous en parlons avec Liane Eli Tello, expert international en matière de lutte contre la traite des personnes qui a dirigé cette étude. Ils s'entretiennent ici avec Jean-Claude Lokidile.
Bonjour fils Liane Eli Tello.
Bonjour.
Alors ma première question, quel était concrètement le but de cette étude menée?
L'objectif c'est d'arriver à avoir une meilleure compréhension du phénomène de la traite des personnes, de voir quelles sont les tendances qui se dégagent et comment aussi identifier les profils des victimes en vue de dégager un ensemble de recommandations qui permettraient de mieux combattre ce phénomène de crime transnational organisé au niveau de la province de l'Ituri. Rappelons que la province de l'Ituri est une province frontalière avec la République d'Ouganda, mais c'est aussi une province en proie à des conflits armés, ce qui fait que les communautés locales sont particulièrement vulnérables à tous ces réseaux de crimes transnationaux organisés.
Mais déjà, quelles sont les principales tendances ou réalités que votre équipe a observées sur le terrain, concrètement, donc concernant la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants?
Alors, en termes de tendance, nous avons constaté que ce sont principalement les femmes et les enfants qui représentent le gros lot des victimes de traite des personnes. Cela se fait sous forme d'exploitation sexuelle ou d'esclavage sexuel ou de prostitution forcée. Il y a des réseaux de proxénétisme à travers les Nkuzu, les Nganda qui opèrent. Et au niveau des points frontaliers, on a une réalité préoccupante. Au niveau aussi des différents sites miniers, on a beaucoup de pratiques pouvant être assimilées à l'exploitation sexuelle qui se sont manifestées et qu'on a pu identifier. En plus de cette forme de traite, qui est d'ailleurs majoritaire par rapport aux chiffres, on a aussi le travail forcé, surtout le travail forcé au niveau des sites miniers, où ce sont principalement des enfants, principalement des garçons de moins de 18 ans, qu'on retrouve à la fois sur les sites miniers, mais aussi dans le secteur de l'élevage. Il y a aussi le mariage forcé, qui est favorisé par des pratiques culturelles qui, malgré les efforts des autorités, continuent aussi à faire des victimes sur le terrain.
Mais quels sont déjà les facteurs favorisants?
Les facteurs favorisants, c'est effectivement les conflits armés. Malheureusement, on est dans une province fortement touchée par les conflits armés. En plus des conflits armés, il y a la pauvreté. Dans beaucoup de cas, selon les statistiques, les données recueillies, les témoignages aussi, la pauvreté, les conflits armés, les pratiques traditionnelles, culturelles, ce sont les trois principaux facteurs. Il y a un facteur qu'on ne doit pas mettre de côté, qui me semble d'une importance capitale, c'est l'ignorance. L'ignorance à la fois du côté des victimes. Il y a des victimes qui ignorent qu'elles sont victimes de traite des personnes. Il y a aussi malheureusement des trafiquants d'êtres humains qui croient rendre service à leurs victimes.
D'où la dernière question, qu'elles devaient faire les autorités, mais aussi les communautés locales, donc pour combattre ces fléaux?
C'est d'abord organiser la prévention. Il faut voir comment on peut mener un plaidoyer auprès des autorités pour que la traite des personnes soit intégrée dans leur agenda politique, que ces autorités-là mobilisent des ressources financières, des ressources matérielles et logistiques pour faciliter la lutte sur le terrain contre la traite des personnes. Qu'on arrive à développer des mécanismes de coordination des acteurs de première ligne sur le terrain pour mieux assurer une prise en charge holistique des victimes de traite des personnes. Ensuite, en matière de poursuite des trafiquants, là encore, on a besoin au niveau de la province que les forces de sécurité, les acteurs judiciaires prennent connaissance de la loi spécifique qui criminalise la traite des personnes. Donc il faut qu'on arrive à vulgariser cette loi auprès des acteurs judiciaires et policiers pour qu'ils soient outillés sur le plan judiciaire afin qu'ils mènent une bataille contre les trafiquants et démanteler les réseaux de trafiquants d'êtres humains sur le terrain.
Fils Lien Eli Tello, je vous dis merci.
Merci à vous.
Fils Lien Eli Tello, expert international en matière de lutte contre la traite des personnes. Merci à vous qui venez de suivre ce journal. Jean Gandou l'a préparé au micro, Babel Pongo Massimango et Pierre Dessino nous a aidé à vous le faire parvenir. Bon début de week-end.